Des mots, des phrases, un style, une langue, au singulier et au pluriel, comment passer d'une langue à l'autre, changer le son, garder le style, fidélité et imperfection, traduire, trahir, réécrire, grammaire et alchimie.
Pascal Paradou.
Un auteur face à ses traducteurs, ou plutôt une autrice, Maïlys de Kerangal, et ses traducteurs, pendant une semaine au Collège international des traducteurs littéraires à Arles. Écrire, réécrire, comprendre, biffer, corriger, causer. Ils étaient 8 autour de la table pour décortiquer et traduire le dernier texte en date de l'écrivain, célèbre pour Naissance d'un pont, Prix Médicis 2010, ou Réparer les vivants, best-seller de l'année 2014. Bonjour Maïlys de Kerangal.
Bonjour.
Votre œuvre est traduite dans combien de langues à l'heure actuelle ?
Réparer les vivants a été traduit presque en 40 langues, 37-38, mais Naissance d'un pont et Un monde à portée de main, donc le livre précédent, Réparer les vivants, et puis le dernier livre, une douzaine de langues. Enfin, vous voyez, pas encore pour le dernier, mais ça sera...
C'est quand même assez important pour un auteur français d'être traduit à ce point.
Si on considère pas, si on accepte Réparer les vivants, qui est un cas quand même à part, c'est vrai que 10-12 langues, c'est déjà important. Et c'est vrai que ça change beaucoup de choses. Ça change un peu la vie d'un auteur et ça change aussi la vie d'un livre.
Et ça vous fait voyager, peut-être. En tout cas, en cette semaine passée à Arles, sur la table était donc Un monde à portée de main, qui est, rapidement comme ça, pour qu'on comprenne ce que vous avez traduit les uns et les autres, l'histoire d'une jeune femme peintre spécialisée dans le facsimilé et le trompe-l'œil. On en dit plus ?
Elle, dans une première partie, elle se forme dans un institut à Bruxelles. Elle apprend les techniques de la peinture en décor. Donc, elle apprend à reproduire certaines surfaces, marbre, bois, etc. Ensuite, dans une seconde partie qui s'appelle Le temps revient, elle fait des chantiers. Et ensuite, dans la dernière partie, elle arrive dans le facsimilé de la grotte de Lascaux. Donc, c'est une trajectoire.
Alors, avec vous, à Arles, il y avait 7 traducteurs, dont certains sont aujourd'hui avec nous. Ursula Burger, bonjour.
Bonjour.
Vous traduisez du français vers le croate.
Tout à fait.
Et vous avez fait des traductions de Samuel Beckett, Assia Djebbar, Tahar Ben Jelloun, Raymond Roussel, Marguerite Duras et Maïlys de Kerangal. Est-ce qu'un traducteur choisit son auteur ?
S'il a de la chance.
Vous les choisissez ?
Ces derniers temps, oui.
Donc vous avez choisi Maïlys de Kerangal.
Tout à fait.
Pas mal. Villers Keunas, bonjour.
Bonjour.
Grâce à vous, Rabelais, Flaubert, Céline, Pérec, Houellebecq sont lisibles en finnois. Ce ne sont pas forcément les auteurs les plus simples.
Non.
Et c'est votre réputation, je crois, de traduire une littérature impossible à traduire.
Un peu, oui. Et pour le moment, je traduis la disparition de Pérec, donc ça va être encore pire.
Oui, parce que c'est un roman sans eux.
Sans A en finnois.
Sans A en finnois. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette difficulté-là ?
Je ne peux pas dire ça. Ça m'arrive. On me demande. J'ai commencé avec Pérec, puis j'ai eu la réputation d'être le traducteur de ces trucs-là, donc on me donne des trucs impossibles. C'est une sorte de poubelle littéraire.
Oh, ouais. Ces trucs-là, le plus grand auteur. Ça doit être de l'humour finnois, je pense.
Ouais, c'est ça.
C'est ça. Alors, avec vous, troisième traducteur autour de cette table, Jordi Martin Lauré. Bonjour.
Bonjour.
Vous traduisez vers le catalan et surtout des auteurs contemporains, Emmanuel Carrère, Philippe Claudel, Laurent Godet, Mathias Hénart. On va pas tous les citer. C'est votre intérêt, la littérature contemporaine française, ou c'est l'intérêt des lecteurs catalans qui sont pas non plus des centaines de millions dans le monde?
Bon, en fait, je crois qu'en ce moment, en Catalogne, la traduction est en plein fort, parce qu'on traduit, tout. On traduit la littérature contemporaine, mais aussi la littérature un peu plus classique. Moi aussi, j'ai traduit des auteurs qui sont déjà morts, comme Romain Gary, Boris Vian. Et aussi, de temps en temps, on retraduit Flaubert, on retraduit Molière, on retraduit Rabelais, Pérec aussi. Une nouvelle traduction de La disparition vient de sortir en catalan. Et c'est le...
Ah oui, parce que vous avez des traductions dans les autres langues aussi?
Oui, oui, toujours, parce qu'une traduction, c'est toujours une recherche sur un livre. Et surtout avec Rabelais ou Pérec, le traducteur, il fait c'est une étude, recherche.
Donc ça oui, suppose ça, que vous parlez beaucoup de langues et pas simplement la langue que vous traduisez.
J'essaie de lire beaucoup de langues. Je lis ce que je comprends, mais parfois ça aide.
Comment traduit-on en catalan un monde à portée de main? Parce que c'est une expression oui. très française quand même.
Oui, mais en catalan, on a la chance parce que quand même, il y a beaucoup d'équivalences, beaucoup de coïncidences. Et on traduit « un monde à la base de la main », qui est exactement la traduction littérale de « à portée de main ».
Mais tu n'avais pas dit « un monde à toca »
Oui, parce qu'il y avait une deuxième option, un deuxième choix qui est « à toca », qui est une expression qui veut dire qui est tellement, quelque chose qui est tellement près de toi que tu peux même la toucher. Alors, ouais. Je n'ai pas décidé encore, mais je ne sais pas, parce que j'aimais bien garder le mot « main ». J'aurais bien gardé le mot « main »
dans le titre. Et toucher, c'est pas mal aussi.
Ouais, à toucher, oui.
Ça donne un peu l'idée déjà d'entrée de jeu des conversations que vous avez pu avoir pendant une semaine. En croate, comment on traduit un monde à portée de main ?
« Svijet na dohvat ruke ».
Bon, ça, j'avoue que je comprends moins. C'est la même chose, c'est littéral ?
Oui.
En finnois ?
« Maailma käden ulottuvilla », c'est littéral.
C'est littéral aussi. Et comment prononce-t-on « Maïlis de Kerangal » en finnois ?
« Maïlis de Kerangal ».
Ah oui, très simplement. Catalan, pareil.
Maïlis de Kerangal.
Aussi. Mais l'héroïne, on ne l'appelle pas Paula, mais Paula.
Forcément, ça bouge un peu.
En catalan êtes... aussi, oui.
C'est pareil, Paula. Paula.
Vous êtes sensible, Maïlis de Kerangal, aux accents, aux sonorités étrangères? Parce que dans ce livre, notamment, il y a beaucoup d'expressions et de mots en langue étrangère qui sont écrits en langue étrangère dans le roman.
Oui, j'y suis sensible. Alors, effectivement, dans le roman, il y a des petits affleurements de langues étrangères, enfin essentiellement de l'italien, il y a un peu de russe, et puis de l'anglais. Oui, ça rappelle que une langue est aussi faite de toutes les langues. Et puis, je trouve. Alors, pour le russe, c'est vrai qu'il y a en plus l'aspect graphique qui me plaît beaucoup dans la page. On distingue tout de suite, voilà, ces quelques mots écrits en cyrillique et ça fait comme un grain dans la page. Il y a quelque chose qui vient perturber un peu la lecture et je trouve que c'est intéressant. Par ailleurs, quand on a traduit ce livre, on a commencé par se dire, mais c'est Villet qui disait que c'était un peu l'histoire d'une traductrice aussi, cette héroïne Paula. Elle faisait un métier qui pouvait être une espèce d'analogie de la traduction. C'est-à-dire, il y a de l'interprétation, il y a de la création. Est-ce qu'on est l'auteur de sa traduction? Comme elle est, est-ce qu'elle est l'auteur de ses peintures, etc. Donc, c'était pas mal aussi. C'était finalement un livre qui, outre le fait qu'il comportait, voilà, certains affleurements de langues étrangères, en même temps, il parlait un peu aussi de ce que pouvait être la traduction, et ça, ce sont eux qui me l'ont dit.
Donc vous aimez cette idée d'être traduite, il y a du plaisir, de la sensualité presque, à savoir que vos romans sont traduits et d'entendre leur traduction.
L'entendre, évidemment, ça m'enchante, d'autant plus que moi je parle mal quelques langues et bien aucune. C'est-à-dire vraiment, je n'ai... Donc quand on a fait des essais, quand on a fait des lectures sur des textes traduits, parce qu'il y a eu un passage qu'on a traduit ensemble. C'est vrai que moi, je me repère, par exemple, j'ai des espèces d'étais dans le passage qui sont les noms propres que je peux reconnaître et qui me servent un petit peu d'appui. Et sinon, voilà, c'est vraiment quelque chose, effectivement, de très musical, rythmique. Et évidemment, il y a quelque chose d'assez magique pour moi de voir que ce que j'ai pu écrire en français se transmute dans une autre musique, dans une autre langue.
Maïlis de Kerangal, tous les lundis, un coup de fil dans De Vive Voix pour savoir ce qui se passe ailleurs, c'est-à-dire en dehors des frontières hexagonales, et on va parler théâtre. Vous, dont Réparer les vivants a donné lieu à plusieurs adaptations théâtrales, et ce, de par le monde, cela va vous intéresser. Ailleurs, en Roumanie et pas n'importe où, à Sibiu, où se déroule à partir du 14 juin le Festival international de théâtre. Bonjour Anna Maria Boghian.
Bonjour.
Vous êtes responsable du pôle communication à l'Institut français de Bucarest et pour l'occasion, vous décentralisez l'Institut à Sibiu en Transylvanie. Ça veut dire que l'événement est important?
Effectivement, le compte à rebours a commencé pour nous. Plus que 3 jours avant le début du Festival international de théâtre de Sibiu, qui est le plus grand événement dédié aux arts du spectacle en Roumanie et le troisième le plus important en Europe.
Et cela fait 25 ans que ça dure, c'est ça?
Oui, c'est la 26e édition. Et le thème de cette année est d'ailleurs l'art d'offrir, l'art de donner.
Pourquoi ce choix? Pourquoi ce thème?
Parce que c'est le partage. Et surtout, nous, on le relie à la saison France-Roumanie. Donc, on veut partager entre nos deux cultures, entre nos deux peuples. Et c'est ce qui nous lie historiquement.
Alors, c'est un festival, en effet, qui est international depuis l'origine, mais qui, cette année, est très français. Combien de spectacles, combien d'artistes français vont se produire à Sibiu?
Nous avons une trentaine de productions françaises. Et au total, 75 moments forts français. Je citerai surtout la participation du Théâtre de la Ville, du Théâtre des Bouches du Nord, la compagnie Les gens qui tombent, le Théâtre du Rond-Point. Donc effectivement, il y a plusieurs compagnies, plusieurs groupes, plusieurs expositions organisées. Et d'ailleurs, notre ambassadrice sera présente le 15 à l'ouverture de la Microfolie. C'est un projet novateur de la Villette, porté par le ministère de la Culture, qui se sert de la réalité virtuelle pour faire découvrir au grand public, francophone et francophile, le patrimoine universel.
Donc c'est une programmation résolument contemporaine.
Oui et non. Il y a aussi un côté classique, le festival a toujours gardé ces dernières années. Mais cette année, la France participe davantage que dans les années précédentes. Et c'est d'ailleurs la première fois que notre institut va être délocalisé d'une manière symbolique sur place, pour quelques jours, pour présenter son action culturelle, ses activités autour de la langue française, des découvertes scientifiques, les offres des études en France.
Oui, c'est vrai que la Roumanie est un pays où la francophonie se porte plutôt bien.
Oui, c'est le pays le plus francophone de l'Europe centrale et orientale. On a un rôle primordial dans la francophonie universelle. Et effectivement, toute notre coopération tourne autour d'un public francophone et francophile roumain.
Merci beaucoup Anna Maria Boghian. Donc le festival de Sibiu commence le 14 juin et se terminera le 23 juin. Et puis un petit salut au passage à nos camarades et confrères de RFI Romania.
J'ai coulé mes jours à me répandre trop. Une coquille de noix pouvait s'éprendre d'une brindille ou d'un bébé roseau. Étourdi par mon clapotis tendre. Des coteaux en serpent de verre, en fer aux oiseaux, descendu des albâges, une idée de rivage. C'est ainsi qu'au fil de la fortune, la rivière a changé mon ruisseau. Et dans l'onde où se baignaient mes lunes, maintenant si dégage des cargos. Quant à l'estuaire, c'est vu mon ruisseau, en rade à la mer, en frère de caniveau, j'ai taquiné les traves des courants qui déçoivent.
Mon ruisseau, Maxime Le Forestier sur RFI, extrait de son nouvel album Tout frais, tout neuf, paraître ou ne pas être. Maëlys de Kerangal, vous avez donc passé plusieurs jours avec vos traducteurs autour de ce roman Un monde à portée de main. Impression générale, car j'imagine que c'est presque la première fois pour un auteur de rencontrer autant de traducteurs d'un coup d'un seul.
Oui, pour moi, c'était la première fois que j'avais cette occasion, et je dirais aussi ce privilège, hein, tout de même, de travailler, de passer tant de temps avec les traducteurs, et surtout qu'on travaille ensemble, c'est-à-dire parfois quand je les rencontre, on est deux, c'est-à-dire que je rencontre un traducteur, par exemple, à l'occasion d'un déplacement. Mais là, il y avait aussi l'idée qu'il allait se passer des choses entre les langues, justement, entre le croate et le catalan, et le finnois, et l'italien, et l'arabe, etc. Et évidemment, c'était très riche, et puis effectivement il y avait un aspect un peu à la fois de découverte, d'improvisation et vraiment d'initiation, pour rester dans le thème du livre, c'est-à-dire ça nous arrivait à tous pour la première fois, vraiment l'idée qu'on allait se saisir d'un texte et le parcourir ensemble au cours de ces journées.
Et vous leur avez dit quoi? Vous attendez quoi d'une traduction? Est-ce que ça doit être un facsimilé, pour reprendre un mot de peinture qui est le sujet de votre roman?
Alors, moi, j'ai acquis la conviction que, si vous voulez, je citais un vers d'Emmanuel Hocquart qui dit qu'un traducteur ne traduit pas un texte, il écrit une traduction. Donc, pour moi, le traducteur, il est l'auteur de sa traduction, et j'attends pas du tout quelque chose qui soit le clonage, vous voyez, l'idée de la reproduction parfaite d'un texte. Évidemment que l'interprétation, la lecture et les déplacements que ça peut occasionner selon la culture, etc., m'intéressent beaucoup. Par exemple, on a eu le cas des noms de couleurs. C'est un roman où il y a beaucoup de noms de couleurs, et notamment des vieux noms, par exemple, des vieux noms de couleurs qui seraient « baise-moi ma mignonne » ou « cuisse de nain fému », etc. L'important pour moi dans ces cas-là, c'était vraiment pas la couleur qui était décrite, mais c'est évidemment qu'en français déjà, je m'amuse avec ces noms d'expressions qui sont un peu désuets, très imagés et assez drôles. Et l'idée, par exemple, c'est pas que dans les traductions on retrouve quelque chose soit de littéral, soit qui touche ces espèces de roses, mais de trouver des expressions qui puissent reproduire cette espèce de jeu d'images, de figuration de la couleur.
Mélise Kerangal, vous avez un style, hein, incontestablement, avec des phrases très longues, très denses, avec un effet d'accumulation, une pluralité de voix. Est-ce que c'est un défi pour un traducteur? Tour de table, Villet Keunas, vous qui aimez la littérature impossible à traduire.
Un défi, oui, mais c'est quelque chose qu'il faut faire, qu'on peut faire. Et toujours, il faut voir si les phrases longues sont intentionnelles ou si c'est juste quelqu'un qui ne sait pas mettre les points. Donc.
Et alors? Mais mais est-ce que vous vous autorisez, par exemple, à couper des phrases? Et est-ce que vous l'autorisez, Maëlys de Kerangal, à couper des phrases, éventuellement?
Pas les phrases de Maëlys, non. Mais il y a des auteurs où je vois qu'en finnois, on met un point ici, et ça donne des rythmes, ça donne du sens. Ça dépend toujours.
Alors, on va finir et continuer le tour de table, surtout, mais il faut dire que vous n'étiez pas au même endroit de traduction, chacun et chacune. En finnois, en l'occurrence, Un monde à portée de main est pratiquement terminé.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire que vous êtes à la fin du travail.
On croyait ça avant qu'on est allé à Arles.
Et alors, qu'est-ce qui a changé pour vous? Qu'est-ce qui a bougé?
Il y a des petites choses, parce que Maëlys nous a raconté ce qu'il y a important pour elle, parce qu'il y a les thèmes cachés un peu, les mots importants, tout ça, qu'il faut qu'on les traduise comme ça, qu'on les répète. Donc ça, on va les voir encore. Et puis, juste ce qu'elle a dit, les vieux noms des couleurs.
Donc vous allez changer.
Oui, on va changer.
Mais ça veut dire qu'il y a des mots cachés dans le livre que vous leur avez révélés, Maëlys de Kerangal?
En fait, je me suis demandé voilà comment est-ce qu'on allait se faire collectif, hein. Donc j'ai pris un temps au début de l'atelier pour parler du livre, et puis pour aussi raconter un peu comment il était né, comment je l'avais écrit, et la façon dont il orchestre quelque chose qui a à voir avec le roman. Enfin, pour moi, c'est j'ai fait d'emblée une espèce d'analogie entre le roman et le facsimile, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la fiction, etc. Et du coup, la question de la croyance, enfin, il y a des tas de mots, des tas de verbes qui résonnent pour moi immédiatement avec ces questions-là. Et c'est vrai que je leur disais, bon là, attention, on est vraiment, ça vibre un peu fort, on est vraiment dans le cœur du sujet, et d'essayer que dans les traductions, on conserve un lien entre ces mots.
Jordi Martin-Lauré, donc, comment vous avez appréhendé le style de Maëlys de Kerangal, et est-ce que ça vous a apporté justement qu'elle attire votre attention sur un mot là, une structure, une ponctuation, parce qu'il y a des ponctuations très étranges parfois dans votre livre. Je me souviens d'une phrase au tout début, il a défi des yeux, sourire aux lèvres. Alors on pourrait imaginer qu'il y a une virgule entre les deux. Ben non, pas du tout chez vous. C'est pas simple, Jordi.
Bon, tout d'abord, je dirais que mon premier contact avec la littérature de Maëlys, ça a été avec Réparer les vivants. Et donc, quand on a traduit Réparer les vivants, qui a un style très, très, très Maëlys, je me souviens, la première fois, quand j'ai lu le premier paragraphe, j'ai dû m'arrêter et penser un moment, et j'ai dit, ah bon, ça c'est de la vraie littérature, avec un style très marqué. Il faudra absolument respecter le manque de points, par exemple. Et c'est ce que j'ai essayé de faire.
La rareté du vocabulaire aussi, parfois. Oui, oui, oui. Pour reprendre les noms de couleurs, c'est quand même des noms que même pour un lecteur français habitué à lire, c'est une découverte.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Et même pour moi.
Et du coup, avec ce deuxième roman, disons qu'on a été initié à la littérature de Maëlys et je dirais pas que c'est plus facile pour nous, parce que c'est vraiment un texte exigeant. Je parlerai pas de défi, mais d'un plaisir, un petit plaisir, non, un grand plaisir exigeant.
Un grand plaisir exigeant. Donc la question de la difficulté se pose pour un traducteur ou pas ? Oui. Est-ce que ça a un sens de
elle
dire « Ah, c'est un texte difficile
elle
à traduire ?»
Se pose, mais quand on est traducteur et on essaie de traduire la bonne littérature, il n'y a pas de bonne littérature sans une certaine exigence, même pour le lecteur aussi.
Vous avez traduit, Jordi Martin-Lauré, jusqu'à présent 80 pages, c'est ça ?
80 pages, à peu près.
De ce nouveau roman. Oui. Vous les mettez à la poubelle et vous recommencez tout après Arles, ou au contraire, ça va ?
Non, pas du tout. Non. J'ai pris beaucoup de notes.
Vous avez une bonne note ?
J'ai hâte de rentrer à la maison pour m'y remettre.
Ursula Burger, même question. Comment vous faites avec le style de Kerangal ? Vous en êtes où, vous, dans la traduction de...
Moi, j'ai traduit Réparer les vivants. J'ai lu Un monde à portée de main. Et pendant cette semaine à Arles, j'ai pris plein de notes. Je peux dire que, ayant traduit Réparer les vivants, j'ai un tout petit peu moins peur pour la voix, le ton de la narration. Ça, je pense que ça va. Par contre, on se plonge dans un autre monde, un autre vocabulaire, un lexique qui est exigeant et qu'il faudra soigner, c'est clair. Mais je voulais dire que cette semaine à Arles, c'était comme si on était en présence d'un réalisateur qui vous a montré tout son matériel avant le montage. Il vous a raconté les histoires qui n'étaient pas montrées dans le film et vous avez eu tout. Donc c'est extrêmement précieux parce que du coup on a compris pourquoi de certaines scènes, l'importance de certaines expressions, certains mots, mais même par exemple l'adresse de cet institut de peinture, c'est 30 bis rue du métal. Et on se demande, bon, bis, en plus en croate ça se dit pas bis, donc il y a A, B, C, machin, mais pas bis. Et ben là, on apprend, ben non, parce que c'est toute une réflexion sur le rapport par rapport à la fiction. Donc, rue du métal 30 existe vraiment, mais pas 30 bis rue du métal, etc. Donc, plein d'informations et de détails d'une importance cruciale. On a décortiqué le texte et c'est comme si on était des petits oiseaux qui...
Mais est-ce que tout est traduisible ? Si bis n'existe pas en croate, comment vous faites ?
Bis, il est suffisamment commun par d'autres lexiques qu'on peut quand même l'utiliser aussi dans le cadre d'une rue et on compte sur le lecteur aussi parce que les lecteurs sont pas bêtes.
Mais toutes les langues sont susceptibles de prendre en charge n'importe quel style, toute cette grammaire spécifique, ce lexique spécifique où il y a vraiment des langues qui pourraient être comme ça hermétiques à un style.
Mais à tel point que ce matin je devais rendre un texte qui concernait autre chose, un autre livre, et il a 3 pages et 3 phrases. Donc je me suis fait influencer par Maëlys dans ma façon d'écrire en croate.
Maëlys de Kerangal, à quel moment un roman est-il terminé ? Je vous propose d'écouter Georges Simenon, dont l'œuvre est l'une des plus lues dans le monde, pour un auteur francophone en tout cas, et qui est traduite dans 47 langues, il vous bat.
Il faut 2 ans, pour moi, pour que je considère un roman terminé. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que le public l'ait lu, que la critique en ait parlé. Je ne le lis pas toujours, mais il faut que ça y ait été fait. Et il faut même que ça ait déjà été traduit en 4 ou 5 langues. Parce que je ne veux pas écrire pour le public d'un pays. Je veux écrire pour le monde entier. Autrement dit, je veux qu'un livre ait la même résonance à New York ou à Boston qu'à Londres ou à Liverpool et à Paris. Alors tant que je n'ai pas cette vie de mon roman dans 2-3 pays minimum, ce roman pour moi n'a pas fini de naître, il n'est pas terminé. Alors que je ne peux plus rien y faire, je ne peux plus y changer un mot ni une virgule, ne me demandez pas mon avis dessus, je ne le connais pas.
Votre avis, Maïlys de Kerangal?
C'est très troublant. Je pourrais prononcer à peu près les mêmes paroles. C'est vrai que la traduction, les traducteurs sont des lecteurs extraordinaires. Ce sont ceux aussi qui continuent de lever les loups, les points de fragilité du texte. Et que tant que le texte est pas traduit, tant qu'il n'a pas justement été ressaisi dans différentes langues, effectivement, il est pas encore advenu totalement. Et moi, je vois bien que... Alors, je suis assez d'accord avec lui sur la question des traductions, mais aussi sur la question de comment est-ce qu'on parle de son livre. Et c'est vrai que moi, ce livre-là, il y a un an, je savais même pas vraiment ce que c'était. Et c'est vrai que c'est dans la manière dont d'autres le lisent, d'autres le traduisent, d'autres peut-être l'adaptent, etc., qu'il prend parfois son sens. Oui. Mais moi, l'idée d'écrire pour... Vous voyez, je me dis à Boston ou à New York, etc., je me figure pas, si vous voulez, des points... Pour moi, effectivement, le lecteur, il n'a pas vraiment de nationalité, si vous voulez. Le lecteur, il est universel.
Mais comment vous pouvez juger ou comprendre une traduction dès lors que vous ne comprenez pas les langues?
Alors ça, c'est,
le croate ou le finnois, peut-être le catalan un peu, mais...
Mais c'est une vraie question. Alors, pour le coup, il y a une question de confiance, tout simplement. Vous savez, il y a des livres traduits dans des langues où sur la couverture, je ne reconnais même pas mon nom. Vous voyez, c'est des alphabets que je ne sais pas déchiffrer. Donc, il y a une question de confiance. Après, il y a des choses que je peux détecter, c'est justement tout ce qui a trait à la ponctuation et à l'intensité, et la question du ton et la question de la voix. Ça, on peut les sentir, on peut les capter lors de lecture, évidemment, que sur la page. Mais c'est vrai que moi, je suis plutôt sensible au fait que la ponctuation, justement la longueur des phrases, mais la manière surtout dont elles sont ponctuées, c'est-à-dire la façon dont la virgule rythme justement une action ou une réflexion, ou justement vous parliez d'accumulation, comment la description s'agence par la ponctuation, ça reste quand même des choses auxquelles je suis très attachée. Après, évidemment, tout bouge et il y avait plein de moments dans cet atelier où nous ça marche pas dans notre langue, ça doit bouger, etc. Donc non, il y a réellement un grand rapport de confiance et l'idée quand même que l'auteur doit lâcher aussi son texte. Ça n'aurait pas de sens pour moi d'être dans une idée de vérification, de contrôle.
Et en même temps, j'imagine que pour vous, les traducteurs, traduire, c'est, surtout dans ces conditions, après un atelier d'une semaine, c'est rentrer dans l'intimité d'un auteur.
Tout à fait. Et puis, on se dit que quelque part, on est aussi un peu ceux qui importent des nouveautés dans notre langue. Donc, peut-être que ça n'existe pas des phrases aussi longues ou un style aussi dense ou la phrase organisée de cette façon. Mais avec un peu de confiance, on arrive à reproduire le même effet dans notre langue. Et au fur et à mesure qu'on traduit, ça s'affirme.
Comme... Ça veut dire que Maïlys de Kerangal, écrivant en français, peut révolutionner le croate, par exemple.
Entre autres.
c'est vrai aussi en catalan et en finnois?
Oui, en fait, dans ce point, je veux ajouter que je n'ai pas traduit moi-même seul ce livre, parce que je l'ai fait avec mon épouse et nos partenaires. Donc, j'aime penser qu'on est un peu comme les musiciens. Et c'est que l'écrivain, c'est la partition, et nous, on joue notre instrument, c'est notre langue. La seule différence, c'est que le compositeur ne peut pas comprendre notre performance. Mais donc, c'est toujours... C'est différent, bien sûr.
Et en catalan?
Et en catalan, tout à fait. En fait, hier, on en parlait, je disais, mais on est... Je pense qu'on sera tous d'accord que la langue littéraire dans le pays évolue aussi grâce aux traducteurs. Ouais. Parce qu'ils traduisent, ils importent la littérature des grands écrivains étrangers.
Alors pour se quitter, ou avant de se quitter, je veux juste citer José Saramago, prix Nobel de littérature, qui dit « Les écrivains font la littérature nationale, les traducteurs la littérature universelle.
Ouais. Wow.
On n'a rien d'autre à dire.
Magnifique.
Merci beaucoup Maïlys de Kerangal, merci à vous tous. En français, Un monde à portée de main est publié aux éditions Verticales. De vive voix, Pascal Paradou à la présentation, programmation Véronique Durand, Guillaume Ploquin à la réalisation. Merci à Lina pour les archives du son Simenon et à demain.